Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir, nous voici donc à nouveau ensemble dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Un peu angoissé à la longue par tout ce plaisir qui s'offrait à lui, craignant à chaque instant que son manteau entrouvert ne laissât voir sa blouse de collégien, il alla se réfugier un instant dans la partie la plus paisible et la plus obscure de la demeure. On n'y entendait que le bruit étouffé d'un piano. Il entra dans une pièce silencieuse, qui était une salle à manger éclairée par une lampe à suspension. Là, c'était aussi la fête, mais une fête pour les petits-enfants. Les uns, assis sur des poufs, feuilletaient des albums ouverts sur leurs genoux, d'autres étaient accroupis par terre devant une chaise et gravement ils faisaient sur le siège un étalage d'images. D'autres, auprès du feu, ne disaient rien, ne faisaient rien. Mais ils écoutaient au loin, dans l'immense demeure, la rumeur de la fête. Une porte de cette salle à manger était grande ouverte. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Moon avança curieusement la tête. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme ou une jeune fille. Un grand manteau marron jeté sur ses épaules tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan, tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles rangés comme sur une image, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. De temps en temps seulement, l'un d'eux, arc-bouté sur les poignets, se soulevait, glissait à terre et passait dans la salle à manger. Un de ceux qui avait fini de regarder les images venait prendre sa place. Après cette fête, où tout était charmant, mais fiévreux et fou, où lui-même avait si follement poursuivi le grand Pierrot, Mône se trouvait là, plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger et, ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Un autre en fit autant de l'autre côté. Alors, ce fut un rêve comme un rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme. Le lendemain matin, Moon fut prêt un des premiers. Comme on le lui avait conseillé, il revêtit un simple costume noir de mode passé, une jaquette serrée à la taille avec des manches bouffantes aux épaules, un gilet croisé, un pantalon élargi du bas jusqu'à cacher ses fines chaussures et un chapeau haut de forme. La cour était déserte encore lorsqu'il descendit. Il fit quelques pas et se trouva comme transporté dans une journée de printemps. Ce fut en effet le matin le plus doux de cet hiver-là. Il faisait du soleil comme au premier jour d'avril. Le givre fondait et l'herbe mouillée brillait comme humectée de rosée. Dans les arbres, plusieurs petits oiseaux chantaient, et de temps à autre, une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur. Il fit comme les invités qui sont éveillés avant le maître de maison. Il sortit dans la cour du domaine, pensant à chaque instant qu'une voix cordiale et joyeuse allait crier derrière lui « Ah, déjà réveillé, Augustin ?» Mais il se promena longtemps seul à travers le jardin et la cour. Là-bas, dans le bâtiment principal, rien ne remuait, ni aux fenêtres, ni à la tourelle. On avait ouvert déjà, cependant, les deux battants de la ronde porte de bois, et dans une des fenêtres du haut, un rayon de soleil donnait, comme en été, aux premières heures du matin. Maud, pour la première fois, regardait en plein jour l'intérieur de la propriété. Les vestiges d'un mur séparaient le jardin délabré de la cour où l'on avait depuis peu versé du sable et passé le râteau. À l'extrémité des dépendances qu'il habitait, c'étaient des écuries bâties dans un amusant désordre, qui multipliaient les recoins garnis d'arbrisseaux fous et de vignes vierges, jusque sur le domaine déferlaient des bois de sapins qui le cachaient à tout le pays plat, sauf vers l'est, où l'on apercevait des collines bleues, couvertes de rochers et de sapins encore. À l'instant, dans le jardin, Maud se pencha sur la branlante barrière de bois qui entourait le vivier. Vers le bord, il restait un peu de glace mince et plissée comme une écume. Il s'aperçut lui-même reflété dans l'eau, comme incliné sur le ciel, dans son costume d'étudiant romantique. Et il crut voir un autre Maune. Non plus l'écolier qui s'était évadé dans une carriole de paysan, mais un être charmant et romanesque, au milieu d'un beau livre de prix. Il se hâta vers le bâtiment principal car il avait faim. Dans la grande salle où l'on avait dîné la veille, une paysanne mettait le couvert. Dès que Maune se fut assis devant un débol aligné sur la nappe, elle lui versa le café en disant « Vous êtes le premier, monsieur !» Il ne voulut rien répondre, tant il craignait d'être soudain reconnu comme un étranger. Il demanda seulement à quelle heure partirait le bateau pour la promenade matinale qu'on avait annoncée. « Oh, pas avant une demi-heure, monsieur. Personne n'est descendu encore !» fut la réponse. Il continua donc d'errer en cherchant le lieu de l'embarcadère, autour de la longue maison châtelaine aux ailes inégales comme une église. Lorsqu'il eut contourné l'aile sud, il aperçut soudain les roseaux à perte de vue qui formaient tout le paysage. L'eau des étangs venait de ce côté mouiller les pieds des murs et il y avait devant plusieurs portes de petits balcons de bois qui surplombaient les vagues clapotantes. Désœuvré, le promeneur erra un long moment sur la rive sablée comme sur un chemin de halage. Il examinait curieusement les grandes portes aux vitres poussiéreuses qui donnaient sur des pièces délabrées ou abandonnées, sur des débarras encombrés de brouettes, d'outils rouillés et de pots de fleurs brisés, lorsque soudain, à l'autre bout du bâtiment, il entendit des pas grincer sur le sable. C'étaient deux femmes. L'une, très vieille et courbée. L'autre, une jeune fille, blonde, élancée, dont le charmant costume, après tous les déguisements de la veille, parut d'abord à Maud extraordinaire. Voilà sans doute ce qu'on appelle une jeune fille excentrique, peut-être une actrice qu'on a mandée pour la fête. Cependant, les deux femmes passaient près de lui. Et Maud, immobile, regarda la jeune fille. Souvent plus tard, lorsqu'il s'endormait après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celle-ci. L'une avait un chapeau, comme elle, et l'autre son air un peu penché. l'autre son regard si pur, l'autre encore sa taille fine, et l'autre avait aussi ses yeux bleus. Mais aucune de ces femmes n'était jamais la grande jeune fille. Maud eut le temps d'apercevoir sous une lourde chevelure blonde un visage aux traits un peu courts, mais dessiné avec une finesse presque douloureuse. Et comme déjà elle était passée devant lui, il regarda sa toilette, qui était bien la plus simple et la plus sage des toilettes. Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner lorsque la jeune fille, se tournant imperceptiblement vers lui, dit à sa compagne « Le bateau ne va pas tarder, maintenant, je pense. » Et Maud les suivit. La vieille dame, cassée, tremblante, ne cessait de causer gaiement et de rire. La jeune fille répondait doucement. Et lorsqu'elles descendirent sur l'embarcadère, elle eut ce même regard innocent et grave qui semblait dire « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je ne vous connais pas. Et pourtant il me semble que je vous connais. » D'autres invités étaient maintenant épars entre les arbres, attendant. Et trois bateaux de plaisance accostaient, prêts à recevoir les promeneurs. Un à un, sur le passage des dames qui paraissaient être la châtelaine et sa fille, les jeunes gens saluaient profondément et les demoiselles s'inclinaient. Étrange matinée. Étrange partie de plaisir. Il faisait froid malgré le soleil d'hiver et les femmes enroulaient autour de leur cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode. La vieille dame resta sur la rive. Et sans savoir comment, Maud se trouva dans le même bateau que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le grand vent, et il put regarder à l'aise la jeune fille qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes en souriant, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordue. Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un bruit calme de machines et d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelques maisons de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu'au soir, on entendrait les tourterelles gémir. Mais soudain, une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête.
Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin. On donnait une fête dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevaient le grand monde, diamants, rubis, topazes et blanches robes longues cachées dans le moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serais pendu demain au jour. Dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin château. Dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine. Moi, le fou que l'on toise, moi, je crevais de haine, caché dans le jardin. Moi, je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et donc, après ce moment musical, nous revenons à la fête étrange dans le Grand Beaune de Alain Fournier. On aborda devant un bois de sapins. Sur le débarcadère, les passagers durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eût ouvert le cadenas de la barrière. Avec quel émoi Maud ne se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille. Il avait regardé ce profil si pur de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes, et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu'elle lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve, tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois. Maune s'avança dans une allée, où 10 pas devant lui marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle, » dit-il simplement. Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient, jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu'il l'aperçut soudain, venant à sa rencontre et forcé de passer près de lui dans les trois sentiers. Elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua en disant très bas « Voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, » dit-elle gravement. « Mais il faut que je rejoigne les enfants puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu. » Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi, qu'elle marcha plus lentement et l'écouta. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. Ensuite, elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au loin. « Je ne sais pas non plus votre nom, » répondit Mône. Ils suivaient maintenant un chemin découvert et l'on voyait à quelque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la campagne. « Voici la maison de Franz, » dit la jeune fille. « Il faut que je vous quitte. » Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit « Mon nom ?»« Je suis Mademoiselle Yvonne de Galais. » Et elle s'échappa. La maison de Franz était alors inhabitée, mais Mône la trouva envahie jusqu'au grenier par la foule des invités. Il n'eut guère le loisir d'ailleurs d'examiner le lieu où il se trouvait. On déjeuna en hâte d'un repas froid emporté par les bateaux, ce qui était fort peu de saison, mais les enfants en avaient décidé ainsi. Et l'on repartit. Mône s'approcha de Mademoiselle de Galais dès qu'il la vit sortir, et répondant à ce que l'avait dit tout à l'heure, « Le nom que je vous donnais était plus beau, » dit-il. « Comment ? Quel était ce nom ? » fit-elle, toujours avec la même gravité. Mais il eut peur d'avoir dit une sottise et ne répondit rien. « Mon nom à moi est Augustin Mône, » continua-t-il, « et je suis étudiant. »« Oh, vous étudiez, » dit-elle. Et ils parlèrent un instant encore. Ils parlèrent lentement, avec bonheur, avec amitié. Puis l'attitude de la jeune fille changea, moins hautaine et moins grave. Maintenant, elle parut aussi plus inquiète. On eût dit qu'elle redoutait ce que Mône allait dire et s'en effarouchait à l'avance. Elle était auprès de lui toute frémissante, comme une hirondelle un instant posée par terre et qui déjà tremble du désir de reprendre son vol. « À quoi bon ? À quoi bon ?» répondait-elle doucement au projet que faisait Mône. Mais lorsqu'enfin il osa lui demander la permission de revenir un jour vers ce beau domaine, « Je vous attendrai, » répondit-elle simplement. Ils arrivaient en vue de l'embarcadère. Elle s'arrêta soudain et dit pensivement « Nous sommes deux enfants, nous avons fait une folie. Il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau. Adieu, ne me suivez pas. » Mône resta un instant interdit, la regardant partir. Puis il se reprit à marcher. Et alors la jeune fille dans le lointain, au moment de se perdre à nouveau dans la foule des invités, s'arrêta et se tournant vers lui, pour la première fois, le regarda longuement. Était-ce pour lui défendre de l'accompagner ? Ou peut-être avait-elle quelque chose encore à lui dire ? Dès qu'on fut rentré au domaine, commença, derrière la ferme, dans une grande prairie en pente, la course des poneys. C'était la dernière partie de la fête. D'après toutes les prévisions, les fiancés devaient arriver à temps pour y assister et ce serait Franz qui dirigerait tout. On dut pourtant commencer sans lui. Les garçons en costume de jockey, les fillettes en écuyère, amenaient les uns des fringants poneys enrubannés, les autres de très vieux chevaux dociles. Au milieu des cris, des rires enfantins, des paris et des longs coups de cloche, on se fut cru transporté sur la pelouse verte et taillée de quelques champs de course en miniature. Mône reconnut Daniel et les petites filles au chapeau à plumes qu'il avait entendues la veille dans l'allée du bois. Le reste du spectacle lui échappa, tant il était anxieux de retrouver dans la foule le gracieux chapeau de rose et le grand manteau marron. Mais Mademoiselle de Galais ne parut pas. Il la cherchait encore lorsqu'une volée de coups de cloche et de cris de joie annoncèrent la fin des courses. Une petite fille sur une vieille jument blanche avait remporté la victoire. Elle passait triomphalement sur sa monture et le panache de son chapeau flottait au vent. Puis tout se tut. Les jeux étaient finis. Et Franz n'était pas de retour. On hésita un instant, on se concerta avec embarras, et enfin par groupe on regagna les appartements pour attendre, dans l'inquiétude et le silence, le retour des fiancés. La course avait fini trop tôt. Il était 4h30 et il faisait jour encore lorsque Mône se retrouva dans sa chambre, la tête pleine des événements de son extraordinaire journée. Il s'assit devant la table, désœuvré, attendant le dîner et la fête qui devait suivre. De nouveau soufflait le grand vent du premier soir. On l'entendait gronder comme un torrent ou passer avec le sifflement appuyé d'une chute d'eau. Le tablier de la cheminée battait de temps à autre. Pour la première fois, Mône sentit en lui cette légère angoisse qui vous saisit à la fin des trop belles journées. Un instant, il pensa à allumer du feu. Mais il essaya vainement de lever le tablier rouillé de la cheminée. Alors, il se prit à ranger dans la chambre. Il accrocha ses beaux habits au porte-manteau, disposa le long du mur les chaises bouleversées comme s'il eût tout voulu préparer là pour un long séjour. Cependant, songeant qu'il devait se tenir toujours prêt à partir, il plia soigneusement sur le dossier d'une chaise comme un costume de voyage, sa blouse et ses autres vêtements de collégien. Sous la chaise, il mit ses souliers ferrés, plein de terre encore. Puis il revint s'asseoir et regarda autour de lui, plus tranquille, sa demeure qu'il avait mise en ordre. De temps à autre, une goutte de pluie venait rayer la vitre qui donnait sur la cour aux voitures et sur le bois de sapin. Apaisé depuis qu'il avait rangé son appartement, le grand garçon se sentit parfaitement heureux. Il était là, mystérieux, étranger au milieu de ce monde inconnu dans la chambre qu'il avait choisie. Ce qu'il avait obtenu dépassait toutes ses espérances et il suffisait maintenant à sa joie de se rappeler ce visage de jeune fille dans le grand vent qui se tournait vers lui. Durant cette rêverie, la nuit était tombée sans qu'il songeât même à allumer les flambeaux. Un coup de vent fit battre la porte à l'arrière-chambre qui communiquait avec la sienne et dont la fenêtre donnait aussi sur la cour aux voitures. Mône allait la refermer lorsqu'il aperçut dans cette pièce une lueur, comme celle d'une bougie allumée sur la table. Il avança la tête dans l'entrebâillement de la porte. Quelqu'un était entré par là et se promenait de long en large, à pas silencieux. Autant qu'on pouvait voir, c'était un très jeune homme, nu-tête, une pèlerine de voyage sur les épaules. Il marchait sans arrêt, comme affolé par une douleur insupportable. Le vent de la fenêtre qu'il avait laissée grande ouverte faisait flotter sa pèlerine, et chaque fois qu'il passait près de la lumière, on voyait luire les boutons dorés sur sa fine redingote. Il sifflait quelque chose entre ses dents, une espèce d'air marin, comme en chantent pour s'égayer le cœur les matelots et les filles dans les cabarets des ports. Un instant, au milieu de sa promenade agitée, il s'arrêta et se pencha sur la table, chercha dans une boîte et en sortit plusieurs feuilles de papier. Mône vit de profil dans la lueur de la bougie un très fin, très aquilin visage sans moustache, sous une abondante chevelure que partageait une raie de côté. Il avait cessé de siffler. Très pâle, les lèvres entr'ouvertes, il paraissait à bout de souffle, comme s'il avait reçu au cœur un coup violent. Moon hésitait. Il hésitait s'il allait par discrétion se retirer ou s'avancer, lui mettre doucement en camarade la main sur l'épaule et lui parler, mais l'autre leva la tête et l'aperçut. Il le considéra une seconde, puis, sans s'étonner, s'approcha et dit, affermissant sa voix. Monsieur, je ne vous connais pas, mais je suis content de vous voir. Puisque vous voici, c'est à vous que je vais expliquer. Voilà. Il paraissait complètement désemparé. Lorsqu'il eut dit « voilà », il prit Moon par le revers de sa jaquette comme pour fixer son attention, puis il tourna la tête vers la fenêtre, comme pour réfléchir à ce qu'il allait dire, cligna les yeux, et Moon comprit qu'il avait une forte envie de pleurer. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine la lecture du Grand Moon de Alain Fournier, que nous reprendrons donc la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.